Une typographie, c'est déjà un point de vue sur le langage et sur le signe. On peut dessiner un A de mille manières, et la façon dont on s'y prend, ça veut dire déjà quelque chose sur l'époque.
Helvetica, Times New Roman, Arial, sans oublier la Comic Sans. En tant que designer et designeuse, nous utilisons des polices de caractère tous les jours. Quelle est l'histoire de la typographie? Quelles en sont les pratiques? Ce sont les questions auxquelles répondent nos invités, Alice Savoie, Eugénie Bidot, Étienne Mineur et Franck Abédiaye. Dans le premier chapitre, nous balayons différentes définitions de la typographie, son histoire et ses modèles économiques. Le deuxième chapitre s'intéresse aux projets de conception de polices de caractère et à leur usage, des étapes de création, des choix artistiques et techniques de nos invités à la capacité de les déployer. Le troisième chapitre est consacré aux contextes culturels et politiques qui entourent la création des polices de caractère, l'aspect humaniste de la typographie et les dessins qu'elle peut servir. Enfin, le dernier chapitre s'intéresse aux futurs possibles et aux évolutions de la typographie. Vous pouvez retrouver tous nos épisodes sur notre site internet designmasterclass.fr et sur les plateformes habituelles Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts. Vous souhaitez aller plus loin? En vous abonnant à notre newsletter, vous allez recevoir une liste de livres, ressources et des bonus. Rendez-vous sur notre site internet. Chapitre 1, une histoire de la typographie. Qu'est-ce que la typographie? Nos invités partagent leur définition. C'est Alice qui ouvre la voie.
Je m'appelle Alice Savoie, je suis créatrice de caractères typographiques. Je travaille en tant qu'indépendante depuis 2010, donc soit pour des projets de commande, soit des créations personnelles que je distribue avec différentes fonderies françaises et internationales. Une typographie, ce que je nommerais plutôt moi une famille de caractères typographiques ou un caractère typographique, c'est un ensemble de fichiers, généralement, puisqu'on va plutôt parler de typographie numérique. Donc, on va avoir des fichiers avec différents formats, OpenType, WebFont, fontes variables, qui incluent des lettres, des signes, des chiffres, des signes de ponctuation. Et généralement, on va parler de famille, puisqu'on a parfois, mais rarement, un seul style de caractère, c'est-à-dire qu'on va avoir un caractère romain ou un caractère de titrage, mais souvent, dans une famille, on va avoir un romain, un italique, un gras, des versions larges, étroites, voilà, avec des différents jeux de caractères. Pour moi, c'est ça aujourd'hui la définition d'une famille de caractères typographiques.
Pour faire suite à cette première définition abordant les familles de caractères, Étienne l'étend au statut de typographe.
Je suis Étienne Mineur, je suis designer et enseignant et je suis le cofondateur des éditions Volumique, voilà, qui travaille depuis maintenant 12 ans sur des livres ou des jouets en papier mais qui utilisent souvent du numérique. Voilà. Donc moi j'adore les relations entre le papier et le numérique. C'est un terme qui a plusieurs sens, tu vois, là. Des gens qui utilisent la typographie, donc plutôt des graphistes, des designers qui vont utiliser la typographie, donc des fois on peut dire, voilà, je fais de la typographie, tu vois, j'utilise la typographie, ou alors des typographes qui sont des dessinateurs de lettres. Et dans les dessinateurs de lettres, on a une énorme variété, c'est comme dans l'illustration, le dessin, de problématiques. Il y a des typographes qui vont vraiment travailler, par exemple, pour un journal, par exemple, qui leur demande une commande spécifique avec un type de papier, type de contrainte très précise. Donc là, vraiment, c'est un travail très très long, tu vois, de ce qu'on appelle la typographie de labeur, de lecture, en fait. Donc ça, c'est vraiment un travail vraiment à part. Il y a des typographes qui vont plutôt faire du titrage, donc même qui vont régler des logos, c'est-à-dire qu'ils vont plus travailler sur l'image, le logo, le pictogramme, et arriver à régler des logos. Alors des fois, c'est les mêmes, hein. C'est quand, une fois que t'as l'œil, en fait, a priori. T'en as qui vont travailler sur des typos complètement fantaisistes, au contraire, qui sont vraiment des images. D'autres, comme Jean-François Rey, par exemple, qui travaille vraiment, lui, sur les polices de caractère de bande dessinée. Donc, toi, c'est encore un autre métier, c'est-à-dire qu'il vraiment, là, il reprend l'écriture manuscrite d'un auteur de BD et il va la renumériser, la corriger, entre guillemets, pour qu'elle soit plus élégante ou plus en adéquation avec le dessin. Et puis après, faire toutes les ligatures, toutes les possibilités, parce qu'il faut jamais que le A soit toujours le même ou pas. Voilà. Donc, c'est un gros, gros travail. Voilà. Donc, en fait, c'est vraiment un métier qui est très méconnu, qui, quand il est bien fait, est invisible.
Pour Franck et Eugénie, la typographie revêt un caractère reproductible et utilisable pour plusieurs personnes.
Je suis Eugénie Bidot, je suis graphiste et dessinatrice de caractère. Je vis et je travaille à Bruxelles où j'enseigne aussi le dessin de caractère et la typographie à l'Institut Saint-Luc et à l'Académie Royale des Beaux-Arts. Je fais partie d'une collective qui s'appelle Bye Bye Binary, qui est une collective... avant, on disait franco-belge, maintenant, on dit plutôt belgo-française, parce que c'est un peu plus en raccord avec la réalité. Puis donc, une collective qui travaille sur les questions d'écriture inclusive, et donc en utilisant la typographie, notamment pour proposer des nouveaux glyphes. Comment définir la typographie? Je dirais que... Bah, en fait, souvent, j'ai besoin de le définir en contraste avec le lettrage. Souvent, les gens comprennent pas trop c'est quoi la particularité d'une typo par rapport à un dessin particulier de lettrage. Et je dirais que ce qui définit la typographie, c'est que c'est un ensemble de lettres préfabriquées, en fait, et c'est un outil que d'autres gens vont pouvoir utiliser après pour recomposer des mots. À la différence de voilà du travail de lettrage où là on va mettre en forme un mot ou une suite de mots particulières.
Je m'appelle Franck Adebiaye, je suis expert comptable et typographe, pas forcément dans cet ordre parce que j'ai commencé d'abord par la typographie à l'âge de 17 ans avec une nouveauté de l'époque qui était InDesign donc en 99 et après pour des raisons familiales, j'ai dû faire des études entre guillemets sérieuses. Et donc j'ai fait plutôt une école de commerce et j'ai commencé ma carrière dans l'audit. Et après j'ai poursuivi en expertise comptable, sachant que mon père est expert comptable. La typographie, c'est une façon d'écrire sans plume. Ça, c'était la définition de Plantin. Moi, j'ai vu ça comme une écriture mécanique, une écriture rapide, reproductible. C'est pas seulement l'art de bien former les lettres, parce que ça, effectivement, c'est plutôt ce qu'on fait dans la calligraphie quand on s'applique. Alors que moi, au quotidien, j'ai plutôt une pratique tachygraphique, c'est-à-dire plutôt de l'écriture rapide. C'est un moyen terme entre une écriture trop rapide et une écriture trop lente. Donc, ça permet de standardiser. Et surtout, ça permet d'inscrire le processus d'écriture dans un dispositif numérique.
D'après Wikipédia, le terme typographie regroupe les différents procédés de composition et d'impression utilisant des caractères et des formes en relief, ainsi que l'art d'utiliser les différents types de caractères dans un but esthétique et pratique. Une typographie, c'est surtout une famille de caractères. Un caractère peut être décliné sous plusieurs styles. Autant de formes qui étendent son usage, light, medium, bold, italique, extended... Alice nous explique comment ces variations ont fusionné pour donner naissance à une famille contenant plusieurs styles.
Le développement des différents styles et la définition, ou la manière dont on s'est mis à étendre les familles de caractères, c'est assez intéressant de voir le développement. Historiquement, les styles typographiques, ils se sont développés de manière complètement indépendante, c'est-à-dire qu'on avait d'abord les caractères soit gothiques, soit romains, et un certain nombre d'hybridations entre les deux. Ensuite, l'italique est arrivé, mais ce n'était pas du tout l'italique au sens où on l'entend aujourd'hui. Et c'est vraiment à la fin du 19e siècle et vraiment au tout début du 20e siècle qu'on a commencé à structurer la famille typographique avec l'idée qu'on pouvait avoir des styles romains, italiques, gras, etc., qui pouvaient être conçus, dessinés de manière cohérente. L'idée d'étendre cette famille pour ajouter des styles, par exemple des versions de titrage et des versions de texte ou des versions plus larges, plus étroites, etc. Ça a commencé à se développer dès le début du XXe siècle. Je pense notamment à un caractère qui s'appelle le Cheltenham, qui est une des premières familles comme ça qui était assez étendue. Le développement de ces styles se faisait de manière assez organique, c'est-à-dire au gré des demandes des clients ou du succès d'un caractère. On pouvait être amené à développer différents styles. Dans les années 50, on commence à envisager la famille de caractères typographiques comme un ensemble cohérent, pensé d'emblée comme une famille qui se complète, qui peut s'utiliser avec les différents styles qui peuvent s'utiliser en combinaison. Ça commence dans les années 50 et on est toujours à la fois dans le plomb et aussi les débuts de la photocomposition. Et évidemment, ça se développe vraiment à partir des années, je dirais 80, surtout 90, où là, on a une explosion dans la notion de la famille typographique avec toutes ses variantes.
L'histoire de la typographie commence en 1455 avec l'invention du caractère en plomb par Johannes Gutenberg.
On a souvent tendance à confondre naissance de l'imprimerie, naissance aussi du processus de la typographie. On a aussi une définition de cette naissance qui est très européano-centrée, qui est très occidentale, puisqu'il y a eu des prémices déjà en Asie notamment. Le consensus aujourd'hui sur l'origine de la typographie, c'est vraiment autour des années 1455, avec la création de Johannes Gutenberg du processus de la typographie avec les caractères mobiles en plomb. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que ce processus qu'il crée avec des technologies, des techniques très ingénieuses, va très peu évoluer depuis le milieu du XVe siècle jusqu'au XIXe siècle. On a évidemment au XIXe siècle, avec la société industrielle, enfin toute l'industrialisation, on a un certain nombre de développements, d'avancées techniques sur les presses, le papier, etc. Et donc là, ça va être l'ère des Fournier, Didot, Baskerville, Didot. Mais on reste sur les mêmes principes fondamentaux. On a à la toute fin du 19e siècle, vraiment à l'aube du 20e siècle, l'apparition de la typographie mécanique avec la fonderie à chaud, ce qu'on va appeler les machines monotype ou linotype. Donc là, on est toujours sur du plomb, mais on a des machines qui nous permettent, à l'aide d'un clavier, de composer du texte qui va être fondu et composé directement à l'aide de cette machine, ce qui est déjà une avancée notable en termes de rapidité de composition des textes. Après la Seconde Guerre mondiale, aux alentours des années 1950-60 et surtout dans les années 1970, qu'on a la vraie révolution d'un point de vue typographique avec l'arrivée de la photocomposition, puisque là, on abandonne progressivement tout ce paradigme du plomb pour passer à des procédés photographiques. Et donc là, on a une période que moi, je trouve très intéressante dans les années 60-70 et tout début des années 80, qui est en fait une période de transition entre ces procédés photographiques et les débuts de l'électronique, ce qui nous amène dans les années 1980 à la typographie numérique. La date qu'on aime noter, c'est 1984, avec à la fois l'arrivée des premiers ordinateurs personnels et aussi l'arrivée du format PostScript, qui est un format de définition des caractères typographiques en version numérique.
Les années 80 marquent un tournant. Les caractères doivent s'adapter au numérique. Étienne parle de cette période entre contrainte et foisonnement créatif.
Donc en 1984, il y a eu le premier Macintosh, donc c'était le Mac Plus, je crois. Donc il est très intéressant ce Mac, parce que bon, c'était un ordinateur grand public avec plein de guillemets, hein, parce que c'était assez cher, mais où on avait une interface graphique, on avait une souris, donc ça s'adressait pas uniquement soit aux développeurs ou aux secrétaires. Donc on avait tout d'un coup un outil qui démocratisait un peu l'informatique, avec une interface plus ou moins compréhensible. Et surtout, ce qui était intéressant, c'est qu'il y avait toute une iconographie, à la fois des logos, des pictogrammes surtout, et des polices de caractères dessinées spécifiquement pour l'écran, ce qui était tout nouveau. Donc c'est Susan Kerr qui a dessiné tout ça, qui a fait toute l'interface graphique et les polices de caractère, donc la Chicago, la San Francisco. Donc c'est marrant, c'était des noms, la New York, c'était des noms de villes, voilà, des États-Unis, et donc qui avaient chacune leur particularité, mais surtout grande nouveauté, et très très dur pour les typographes à l'époque, même toujours, hein, c'est qu'on était obligé de travailler en pixels. Donc tout d'un coup, les pleins, les déliés, les sérifs, les choses comme ça, les finesses typographiques qu'on peut avoir étaient très très dures à représenter. Et surtout, il fallait dessiner une police de caractère pour chaque corps. C'est-à-dire que si tu passais du corps 8 au corps 12, il fallait redessiner la police de caractère, d'accord ? Elle était vraiment en pixel dans une grille, voilà. Puisqu'il n'y avait pas encore le lissage ou des polices de caractère vectorielles, qui elles sont indépendantes du support sur lequel on les projette, on les affiche ou on les imprime. Donc là, c'était vraiment très très dur pour les typographes. Moi le premier, hein. Neville Brody a fait un truc très intéressant. Il a fait des polices expérimentales, puisque tout d'un coup, on avait même des outils pour créer ses propres polices. Donc, ça démocratise encore tout ça. Et lui, il faisait des petites disquettes. Alors, je sais plus comment ça s'appelait, j'en ai gardé, mais c'était intéressant. J'étais ça en librairie, donc fin 80, hein, des années 80. Il te donnait une disquette avec la police de caractère. Et il y avait le code source dedans, c'est-à-dire qu'il y avait le fichier que tu pouvais remodifier. Plus, lui, il t'offrait, entre guillemets, un poster qui était fait avec cette police de caractère. Donc, en gros, il te donnait un peu comme la recette de cuisine. Il dit, voilà les ingrédients, je te les donne, tu peux les modifier, et moi, voilà ce que j'ai fait. Et un gros poster assez beau, très bien imprimé, donc qui te donnait des idées, justement, un caractère typographique très, très fort. Donc ça, c'était génial, c'est-à-dire que tout d'un coup, tu récupérais une police de caractère que tu avais achetée légalement, il t'autorisait à la modifier, Donc là, t'apprenais en fait le dessin de lettres. C'est-à-dire que tout d'un coup, on te donne l'outil, quoi, tu vois. Et donc, tu le modifies, tu peux le réimprimer, voilà. Donc ça, c'était vraiment super intéressant. Donc c'est une époque vraiment intéressante. Malgré le fait que des gens à côté disent « Oh là là, c'est bah, comme toujours, hein, oh là là, genre l'informatique va tuer le métier de typographe ou de graphiste. » Non, au contraire. Là, on a bien vu ce qui s'est passé. Ça a libéré totalement la page. Tout d'un coup, on a pu faire des choses incroyables. Même si au début, on ne pouvait pas avoir une qualité, je suis en dessin de lettres aussi fin que ce qu'on avait avant, en photocomposition ou au plomb. Voilà. Donc c'est intéressant. Mais par contre, on s'est dit, bon, ben, je peux faire des pixels, autant les faire gros. Et tout d'un coup, ça a développé une esthétique que les gens ont repris. Puis après, la qualité, ben, au bout de quelques années, on est arrivé à avoir une qualité qui a rattrapé, en tout cas pour le print, ce qui se faisait en impression traditionnelle, en photocomposition. Donc les années 80, début 90, c'était une phase très importante au niveau de la typographie, puisque c'était la démocratisation. C'est-à-dire que tout le monde pouvait être typographe. Ça fait des catastrophes. Mais ça fait aussi des choses incroyables, et même voir même le retour à la main des typographies faites d'une manière manuelle. Enfin voilà, parce que tout d'un coup, dès qu'il y a du numérique, à côté, il y a des gens qui disent « bon ben moi, je vais partir dans l'autre sens ».
Pourtant, même avec le numérique, la conception de famille de caractères continue d'être contrainte par la forme physique du caractère mobile en plomb. C'est ce qu'explique Alice.
L'influence de l'histoire, et notamment de l'histoire de la typographie sur l'industrie aujourd'hui et sur notre manière en tant que créateur de caractères de dessiner, je pense que d'une part, on a vraiment une manière de penser la typographie qui est toujours liée intrinsèquement à cet objet en plomb. Le fait qu'aujourd'hui encore, même si on dessine de manière numérique, quand on a son logiciel de création typographique, on a une petite case pour chaque lettre. Et on va venir dessiner chaque lettre dans sa petite case. Et ça, pour moi, c'est vraiment lié au fait qu'historiquement, chacune de ces lettres devait tenir sur ce petit rectangle de plomb. Ce qui, pour nous, quand on utilise l'alphabet latin, qui en plus a évolué dans ses formes de manière à s'écrire de manière détachée, avec un certain nombre de signes qui rentrent facilement dans un certain nombre de cases. Dès qu'on rentre dans les problématiques de plus complexes, par exemple d'écritures qui sont liées, comme en arabe, où on a en plus des formes contextuelles selon le placement de la lettre, si elle est à l'intérieur du mot, à la fin, au début, de manière isolée, etc., on se rend compte à quel point tout ce champ de la typographie, il est encore très ancré dans cette idée du plomb et de très latino-centré aussi.
Une fonderie est une entreprise qui réalise des polices de caractères. Ce terme est utilisé depuis le XVe siècle, car il s'agit initialement de concevoir et de fabriquer des caractères en plomb pour la typographie.
Il y a aujourd'hui en France un certain nombre de fonderies. C'est un domaine assez dynamique. Alors, ce qui est assez intéressant, puisque dans les années, je dirais jusqu'au début des années 2000, il y avait assez peu de fonderies typographiques françaises. Évidemment, en plomb, il y en a eu un certain nombre qui ont toutes disparu à la fin des années 70. Donc, il y a eu un gros creux en termes d'industrie typographique française dans les années 80-90. Et là, aujourd'hui, on a vraiment la chance d'avoir une scène qui est très dynamique, en sachant que finalement, aujourd'hui, il y a aussi beaucoup de micro-fonderies, puisque chaque designer presque est libre de créer son propre site internet avec un système de vente en ligne et puis de vendre les propres typos qu'il conçoit. Donc là, c'est vraiment la tendance depuis quelques années. Donc voilà, il y a un certain nombre de micro-fonderies et puis il y a des fonderies de taille un petit peu plus importante qui distribuent, elles, plusieurs créateurs, créatrices de caractères typographiques et qui auront un petit peu plus de visibilité, un petit peu plus d'ancienneté aussi généralement. Et oui, c'est vraiment un secteur très dynamique. Et il y a évidemment, je devrais le préciser, des fonderies qui distribuent des caractères payants. Où là, il faut faire l'acquisition d'une licence pour laquelle on va payer selon un certain nombre de critères, la taille de l'entreprise, le nombre de styles de caractères que vous souhaitez, etc. Et puis, il y a des fonderies qui proposent des caractères gratuits, soit en open source, soit éventuellement en Creative Commons.
Pour Franck, le marché de la typographie est soumis à un travail de prescription par les fonderies et les grands fonds. Les entreprises, de leur côté, utilisent la typographie comme élément de marque. Ces acteurs, par leur pouvoir financier, participent à rendre visible la typographie et ses usages.
Un exemple frappant, c'est Pfizer, quoi. C'est vraiment l'entreprise qui a gagné énormément d'argent avec la crise du Covid, mais qui en avait déjà gagné beaucoup avec le Viagra, déjà, hein, qui avait été découvert par accident. Et début 2021, ils annoncent un rebranding global pour toute l'entreprise. Et ils utilisent une typo gratuite, le Noto, alors qui a effectivement la vertu d'être utilisé partout. Et en fait, c'est un manque à gagner terrible pour l'industrie typographique et c'est un échec majeur. C'est-à-dire qu'en fait, s'il y a bien une entreprise qui a bien de l'argent pour avoir un budget typographique conséquent avec quelque chose d'assez vaste, c'est bien Pfizer, même encore plus que les banques, quoi. Alors aujourd'hui, les sociétés comme Pfizer ou même comme LVMH, faut savoir qu'LVMH a fait plus de chiffre d'affaires que la BNP l'année dernière. Alors que la BNP, c'est déjà la première banque européenne. Ben, LVMH a fait encore plus. Donc, voilà, faut quand même voir où est l'argent, quoi. Enfin, ça, c'est un peu mon rôle d'expert comptable, c'est de savoir où sont les formes dormantes de la valeur, quoi. Enfin, c'est important de savoir de quoi on parle, quoi. Ça nous enseigne plusieurs choses. Déjà, si on reste sur le cas de Pfizer, on est aussi dans cette même logique au niveau de la typographie. C'est que si on veut vendre de la typographie efficacement, il faut être dans cette logique de prescription. C'est-à-dire, en gros, mettre à disposition la typographie, on va dire, vers les personnes qui vont la prescrire à leurs clients et vers des contextes où il y aura un maximum d'occasions de voir la typographie. Si effectivement on a une organisation très importante qui va déployer cette communication avec cette typographie, ça va donner une occasion de voir la typographie partout. Et donc, il y aura ce désir mimétique d'utiliser cette typographie dans d'autres contextes. Et donc, ça va vendre encore plus de licences. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Si on veut vraiment, là, encore une fois, si on veut vraiment vivre que de la typographie et vivre longtemps et bien, quoi. Voilà. C'est vraiment faut atteindre ce niveau-là de magnitude.
Le milieu de la typographie reste restreint. D'un côté se trouve une entreprise monolithique, Monotype. De l'autre, des fonderies indépendantes. Alice et Franck expliquent les événements qui ont poussé ce marché à se consolider dans cette direction.
Une spécificité du marché de la typographie, c'est que d'une part, on a cette méga entreprise qui est Monotype, qui a racheté énormément de fonderies depuis maintenant des années. C'est leur politique d'acquisition, comme le ferait n'importe quel grand groupe coté en bourse, qui est le cas de Monotype, qui possède aujourd'hui tous les grands classiques de la typographie, puisque ils ont aussi hérité de tous les caractères typographiques qui existaient en plomb. Face à Monotype, on a une multitude de plus petites fonderies, des fonderies qu'on va appeler des fonderies indépendantes, de taille plus ou moins variable. Et ces fonderies vont avoir tendance aussi à se fédérer dans une certaine mesure avec des initiatives telles que, par exemple, Type Network ou Fontstand, qui sont les deux là qui me viennent à l'esprit, qui sont des sortes de vitrines, des applications, des sites internet sur lesquels on va retrouver un certain nombre de ces fonderies.
La particularité de Monotype, c'est qu'historiquement, c'était une fonderie, mais au sens vraiment industriel. C'est-à-dire qu'ils avaient vraiment cette machine en bloc, là, qui produisait, et ils développaient des caractères qu'ils faisaient fonctionner avec leur machine, quoi. Même si le nom Monotype est toujours le même depuis la fin du 18e siècle, du 19e siècle, en fait, la réalité de Monotype, c'est plus la même chose. C'est-à-dire qu'en fait, au tournant des années 90, en fait, il y a vraiment une dissociation en fait entre les actifs industriels qui ont été globalement laissés dans l'abandon et mis dans des sociétés qui ont été liquidées après. Et par contre, la marque Monotype a été utilisée plutôt justement sur la partie logicielle. C'est-à-dire, en gros, les fontes numériques sont devenues vraiment l'actif principal de Monotype. Il faut savoir que Monotype, en fait, a été sauvé par Arial. Ils avaient déjà le Time New Roman, quoi. Et donc ils se sont dit, on a déjà quelque chose qui fonctionne bien pour un usage de bureau, un usage très économe, en fait, de composition de documents. Et donc si on arrive à avoir quelque chose d'un peu équivalent à l'Helvetica, parce que c'était pas un actif de Monotype à l'époque, l'Helvetica, ça fera une paire intéressante. Et puis c'était complété généralement par le courrier, et en gros on estimait que ça c'était suffisant. Enfin, c'était d'ailleurs l'opinion de Bill Gates, hein. Bill Gates estimait que avec une typographie sans sérif, une typographie sérif et une typographie monospace, ça suffisait. Contrairement à Steve Jobs, qui lui avait été un peu initié à la calligraphie, qui avait une approche un peu plus esthétique de la chose, mais Bill Gates avait une approche très très pragmatique de la typographie. Et en fait, peu à peu, Monotype est devenu un gigantesque fonds typographique, parce qu'ils ont racheté un certain nombre de fonderies année après année. Ils sont consolidés.
Chapitre 2, concevoir une famille typographique.
Qui, moi, m'a amené vers la typographie et que je trouve assez fascinant, en fait, dans l'écriture en général, c'est ce truc de fixer le langage. Je crois que le langage, je trouve que c'est quelque chose d'assez fascinant à l'échelle de l'humanité. Fait de l'écrire, c'est vraiment passer d'un statut d'idée orale, quoi. Donc c'est comme si les mots, en fait, quand on les prononçait, ils mouraient juste après. Alors que À partir du moment où on invente l'écriture, on fige tout ça et c'est, on donne une forme solide en fait au langage et j'ai toujours trouvé ça assez fascinant.
La création d'une police de caractère passe par plusieurs étapes, de l'inspiration à la réalisation. Chaque dessinateur, chaque dessinatrice a sa propre méthode de conception. Chaque projet peut répondre à différents critères. Créative, projet de commande ou projet destiné à être vendu sous forme de licence par une fonderie.
Le projet de Faune est un projet qui est assez exceptionnel et assez unique puisqu'on est à la fois sur un projet de commande, qui est une commande du Centre National des Arts Plastiques et de l'Imprimerie Nationale, mais c'est une commande de création personnelle.
Alice parle de son travail sur le projet Faune, un projet de commande.
Ça s'inscrivait dans une commande donc, du Centre National des Arts Plastiques qui a ce rôle de promouvoir le design, les différents arts et notamment la création typographique. Et donc le CNAP a souhaité faire une commande d'un caractère typographique à un designer français qui soit ensuite distribué librement au public pour faire connaître au public cette pratique de la création typographique. Il l'avait déjà fait. Le CNAP avait déjà fait cette commande quelques années plus tôt à Sandrine Nung avec l'Infini. Il s'agissait de proposer un caractère utilisable par tous avec au moins trois styles, un romain, italique et gras. Et il fallait que ce soit un caractère de texte. Ça ne pouvait pas être uniquement un caractère de titrage. Autre point important, il fallait que la genèse de ce projet se trouve dans les collections patrimoniales de l'Imprimerie nationale. L'Imprimerie nationale, donc, qui a une collection, notamment dans son atelier du livre d'art et de l'estampe. Ils ont une collection de poinçons historiques, donc de caractères historiques, et ils ont aussi toute une collection d'éditions. J'ai donc, moi, travaillé à partir de leur collection. J'ai sélectionné deux séries d'ouvrages, l'Histoire naturelle de Buffon et la description de l'Égypte, qui fait suite aux campagnes d'Égypte par Napoléon. Et j'ai sélectionné des planches d'histoire naturelle, donc des gravures d'animaux. Et ces gravures d'animaux m'ont servi de point de départ, de genèse, à la création d'un caractère typographique. J'ai vraiment pris les qualités physiques, formelles de ces animaux et j'ai essayé de les réinvestir dans un caractère avec l'idée derrière de réintroduire une forme de diversité formelle dans la notion de famille typographique. Je partais du constat qu'avec le numérique et avec les outils qui sont mis à notre disposition, on a tendance maintenant à faire des familles de caractères qui sont relativement uniformes, homogènes, parce que c'est plus simple, en fait. C'est plus simple quand les formes sont compatibles, on va dire en typographie, sont interpolables. Plus les formes se recoupent, se retrouvent, et plus ça va être fluide dans le développement de la famille et dans la production des caractères. Et moi, je voulais questionner ça à partir de ces gravures d'animaux. J'ai essayé de réintroduire une forme de diversité formelle dans ce caractère qui est Faune, qui a donc un romain qui est inspiré d'un bélier, qui a une version très légère qui est inspirée d'une vipère et surtout qui a une italique très étrange qui est inspirée d'un ibis.
Avec Alice, nous faisons le tour des différentes étapes pour la réalisation de cette famille de caractères.
Très souvent, je vais commencer avec une étude. C'est-à-dire que je vais, que ce soit d'ailleurs, enfin, plutôt quand c'est un travail pour un client, il va y avoir une proposition d'étude. Donc, je propose pas 50 pistes différentes. Je propose une piste qui me semble être la bonne piste. J'ai toujours un peu une phase de dessin à la main qui est jamais très aboutie, mais on est vraiment sur du croquis. Voilà, ce qui m'aide un peu à trouver la bonne forme. Ensuite, je vais assez rapidement passer sur l'ordinateur. Donc, l'étude va plutôt être sous forme d'un PDF ou d'une présentation. Et puis, une fois qu'on a convenu des caractéristiques formelles du caractère typographique, ensuite, il va y avoir toute la phase de développement, puisque là, on va élaborer, c'est rarement un seul style, hein, ça peut être un seul style, mais souvent, on va avoir un romain gras, des italiques, différentes graisses, etc. Ce dont on ne se rend pas toujours compte, c'est qu'on doit, nous, dessiner chaque lettre, chaque signe, chaque chiffre, chaque signe de ponctuation pour chacun des styles. Alors, on a un processus en typographie dans lequel on va dessiner des masters. C'est un peu comme en animation, par exemple, quand on va avoir de l'interpolation, c'est-à-dire qu'on dessine des étapes clés. par exemple, une version romain et une version très grasse. Et puis ensuite, on va pouvoir interpoler pour obtenir des styles intermédiaires, donc des graisses intermédiaires. Et il faudra juste un peu les retoucher, mais le gros du dessin sera déjà généré par ce processus d'interpolation. Après, il y a tout un tas d'étapes qui peuvent être assez fastidieuses pour finir ajouter tous les signes pour chaque graisse, chaque style. Ensuite, il faut faire les espacements des lettres. Il faut déterminer l'espacement optimal à droite et à gauche de chaque caractère. Et il faut faire aussi ce qu'on va appeler le kerning, le crénage. C'est-à-dire que quand on a un A capital et un V capital côte à côte, si on met chaque case l'une à côté de l'autre, il y a un gros blanc entre les deux. Et donc là, il faut indiquer à la fonte que là, on va volontairement réduire cet espace de temps d'unité. Ça paraît anodin comme ça, mais en fait, ça se fait toujours manuellement aujourd'hui et ça prend énormément de temps. Ensuite, il y a l'étape de ce qu'on va appeler le mastering, c'est-à-dire qu'on va générer les fontes et puis ensuite, elles vont pouvoir être mises en usage.
En typographie, un caractère de labeur est destiné à composer des textes longs, contrairement au caractère de titrage. Les contraintes pour réaliser ces caractères sont fortes car ils doivent offrir une lisibilité maximum. C'est en partant de ces contraintes d'usage que Génie a conçu l'Adelph, une famille de caractères inclusive.
L'enjeu de l'Adelph, donc, c'était de faire un caractère inclusif qui marche aussi en labeur. Donc, c'était vraiment mon projet de recherche à la NRT. J'avais plusieurs choix, en fait, pour un caractère de labeur. Finalement, ça peut vouloir un peu tout et rien dire. On peut s'inscrire dans plein d'esthétiques différentes. Mais moi, finalement, j'avais plutôt envie de m'intéresser à un caractère qui puisse être adapté, par exemple, à mettre en forme de la littérature ou des choses comme ça, et de m'inspirer, disons, de canons de la typographie française. Parce que j'avais un peu une volonté d'aller sur le terrain, on va dire, des gros réacs qui critiquent l'écriture inclusive. Voilà, c'était aussi un peu un parti pris politique, quoi, de reprendre ces formes-là et de dire, bah, en fait, l'histoire de la grande typographie française, c'est aussi, elle appartient à tout le monde. Je me suis un peu plongée dans ces références de grands typographes de la Renaissance française, donc voilà, Garamond, Janson, De Colline, etc. Et donc j'ai fait donc une Garald assez simplement. Mais qui a la particularité d'avoir des entrées et des sorties un peu en bec de plume, un peu calligraphique. Tout simplement parce que je pensais que si je gardais un tracé un peu calligraphique, ça m'aiderait en fait en quelque sorte à construire les nouveaux glyphes. Tout simplement parce que en fait la forme des empattements, c'est quelque chose qui a évolué avec le temps. Et en fait, moi, j'étais pas en mesure de reproduire cette évolution à ma petite échelle. Ça me paraissait un peu complexe, là où justement garder des traces d'un mouvement calligraphique, bon, bah, c'est des choses qui font tout de suite sens. Et donc c'est pour ça que je me suis basée sur ce type de forme. L'univers formel dans lequel ça s'inscrit, mais en ce qui concerne vraiment les glyphes inclusifs en eux-mêmes, j'ai fait pas mal de recherches sur des procédés qui auraient pu être utilisés par le passé, mais évidemment qui servaient pas pour l'écriture inclusive, mais des choses qui étaient devenues désuètes finalement, mais qui pouvaient être intéressantes dans l'histoire de l'écriture.
Remettre à jour des glyphes anciennement utilisés, concevoir un point médian de manière plus harmonieuse, rechercher une manière d'écrire la moins binaire possible. Ce sont les challenges que Génie relève avec sa création. Pour ce faire, elle en déploie trois versions qui composent la famille de caractères Adelph.
Et puis donc c'est pour ça que voilà, il y a trois versions de l'Adelph. Il y a la version donc germinale qui utilise le point médian, qui reste sur ce point médian, mais qui tout simplement j'ai fait en sorte de le dessiner lui, et puis de travailler aussi les approches et le crénage pour qu'il s'insère de manière un peu plus harmonieuse dans les mots en fait. Donc on va dire que c'est la version la plus timide du caractère, mais voilà, qui permet d'avoir quelque chose qui au moins visuellement est plus satisfaisant. Il y a la version ensuite floréale qui utilise donc des signes diacritiques, donc en fait des accents placés en dessous les lettres. Et en fait, ça c'est quelque chose que j'avais relevé dans des vieux livres imprimés ou même des manuscrits médiévaux où il y avait beaucoup de signes diacritiques qui étaient utilisés en fait à des fins d'abréviation. Et c'est quelque chose qui, voilà, a pas mal disparu, surtout en fait avec l'invention de l'imprimerie, où il y avait plus cette nécessité d'abréger, parce qu'en fait quand on était copiste au Moyen-Âge, il y avait un peu besoin d'abréger pour pouvoir avoir un rendement suffisant. Je trouvais ça aussi assez séduisant, cette idée de prendre ce point médian et en fait de simplement le déplacer en dessous. En dessous les lettres, voilà, pour ne pas créer de rupture, mais avoir quand même des espèces de bornes qui viennent nous indiquer quand est-ce qu'on est dans quel genre. Mais ça restait quand même un peu binaire, en fait, parce que finalement, il y avait le masculin et le féminin qui étaient juxtaposés. Donc, il y avait plus de signes de séparation, mais ils étaient vraiment juste l'un à côté de l'autre. C'est pour ça que j'ai travaillé à la troisième version, qui est donc la Delphes Fructidor, qui, lui, pour le coup, utilise une lettre en plus, qui est une sorte d'epsilon, si vous connaissez votre alphabet grec. Donc, un E ouvert, quoi, qui ressemble un peu à un 3 à l'envers. Et en fait, ce type de E avait été proposé à un moment, je crois que c'était au XVIe siècle, par un gars qui s'appelle Giorgio Trissino. Et donc, lui qui était un fervent défenseur de l'utilisation de deux graphies différentes de E, pour le E fermé et le E ouvert, et aussi pour le O, en fait, qu'utilisait à la fois le O latin et l'oméga grec pour les O fermés et les O ouverts. Et en fait, ces propositions sont tombées en désuétude. Les gens n'étaient pas d'accord. En fait, ça aurait pu marcher, parce qu'on a déjà vu le cas pour genre le U et le V. À la base, c'est la même lettre, et ça a fini par se détacher l'un de l'autre. Le I et le J, le C et le G. Enfin, en fait, il y a plein de lettres qui, à la base, n'en étaient qu'une seule, et voilà, qu'on a séparé pour des questions de phonétique. Et en fait, je trouvais ça intéressant, voilà, de reprendre cette espèce de E qui avait été un échec, et de peut-être lui redonner une utilité. Et donc ce E, il permet en fait de marquer, parce que évidemment en français, souvent la forme féminine est marquée par un E, et donc quand on utilise ce E différent, ça permet d'être ni le E du féminin ni l'absence du E du masculin, mais plus ou moins les deux à la fois, ou même toute autre chose, en fait, une sorte de E non binaire. Et pour les cas où la différence entre masculin et féminin, c'est pas simplement un E en plus ou en moins, j'ai décidé aussi un ensemble de ligatures qui viennent se combiner à ce E alternatif et permettre, voilà, d'écrire toutes les terminaisons genrées du français.
Siphone et Adelph sont des projets de création. Il est parfois nécessaire d'adapter des polices de caractères existantes pour les écrans. Dans les années 90, Étienne a dû travailler sur des projets pour concevoir des polices qui s'affichent sur l'écran des téléphones Nokia.
On avait travaillé, c'était avec Rémi Bourganel, donc c'est un designer français mais qui travaillait pour Nokia, donc qui était, on n'appelait même pas ça UX, mais en gros expérience utilisateur, et on travaillait sur les premiers smartphones. Donc quand je dis smartphone, c'est des écrans un peu plus gros que les petits Nokia de base, donc on avait juste pour afficher un SMS ou une grille avec le numéro de téléphone, hein, de la personne qui t'appelait. Donc là, il commençait à y avoir des téléphones un peu plus pointus. Donc là, tout d'un coup, ils ont commencé à vouloir utiliser des polices de caractère, bah, du commerce, en gros. Qu'est-ce qui se passe? Donc on s'est aperçu qu'il fallait les redessiner. Voilà. Il y avait différentes technologies qui permettaient de faire de l'anti-aliasing, donc du lissage de caractères pour pas que ce soit pixel. C'est du pixel de toute façon, mais les écrans commençaient à avoir des pixels de plus en plus petits, donc à l'œil, c'était pas mal, on les voyait de moins en moins. Donc là, tout le travail, c'était tu designes ton carnet d'adresses, toi, avec plein de typos, une sorte de... T'es un annuaire, en fait. Comment tu le fais sur un écran tout petit? Voilà. Et pour arriver à que ce soit le plus techniquement faisable, en mémoire aussi, parce qu'il y avait des gros problèmes, et toujours, hein, en informatique, c'est toujours le problème de la mémoire, hein, c'est que tu peux pas mettre des milliards d'images, des milliards de polices de caractères, donc t'optimises la mémoire, comment juste avec deux polices de caractères différentes, en changeant des corps, en faisant des optimisations, t'arrivais à rentrer dans les 10 kilooctets qui t'étaient alloués, quoi, tu vois, donc ça c'est compliqué, tu vois, c'était vraiment très technique, en fait, hein. Pendant longtemps, sur les CD-ROM, hein, je reprends les CD-ROM, parce qu'on retrouvait les mêmes contraintes, bah t'es limité au nombre de couleurs, tu vois, t'as que 16 couleurs, ou 256, heureusement, à un moment donné. Mais à un moment donné, tu vois, sur téléphone, c'était en noir et blanc. La plupart des téléphones étaient en noir et blanc. Donc, comment tu fais passer certaines informations, juste avec des niveaux de gris, voilà, ou avec des trames. Des fois, tu faisais juste des trames qui simulaient le gris. Toi, tu fais une trame avec des petits points. Plus les petits points sont rapprochés, plus c'est dense, en fait. Plus t'as l'impression que c'est noir. Enfin, voilà. Plein de techniques comme ça, qui sont assez belles, en fait, hein. Par contre, sur le coup, tu rigoles pas.
Franck est le fondateur d'une fonderie française, Belvétine. Il partage le cheminement créatif et artistique qui l'a poussé à concevoir, tout en cherchant sa zone de liberté.
Velvetine, effectivement, c'est la prolongation en fait, d'un blog que j'avais monté sur la typographie déjà quelques années auparavant. Et à un moment donné, en fait, j'ai fait le même chemin que dans mon parcours dans la comptabilité. C'est que quand j'ai commencé ma carrière professionnelle, c'était en audit. Et dans l'audit, on est quand même plus dans le contrôle et dans le commentaire, en fait, de comptes qui sont déjà faits, plutôt que dans la production de comptes. Pareil, dans la typographie, j'étais plus dans le commentaire et puis dans l'analyse de ce que les autres ont fait, mais j'étais pas moi-même dans la création et la production de caractères typographiques. Et donc, à un moment donné, j'ai voulu aller dans le même mouvement de faire les choses, c'est-à-dire à la fois de faire les comptes, vraiment de produire des écritures comptables et de produire des comptes. Et puis j'ai voulu aussi faire des caractères typographiques. Et donc c'est pour ça que j'ai commencé à produire un certain nombre de caractères, j'ai lancé Velvetine. J'avais ce besoin à cette époque de ma vie de faire les choses, ça me paraissait plus sain que juste les commenter, quoi. L'objectif c'était déjà de créer pour créer, j'avais pas forcément l'objectif d'en tirer des revenus. Avec le temps, je pense que j'ai gardé cette idée de liberté, c'est-à-dire que je veux créer les formes que j'ai envie de créer, et pas forcément pour plaire à un marché. Donc ça effectivement, c'est quelque chose que je garde. Par contre, je pense pas que ça doit forcément être gratuit. Il y a un an, j'ai créé un nouveau label qui s'appelle Subjective Letters, où en gros, j'ai mis progressivement toutes les typographies qui me paraissent les plus intéressantes de ce que j'ai fait, en dehors des caractères un peu iconiques de Velvetine, comme le grotesque, le linéal, le back-out, le format, qui sont des caractères qui sont vraiment très bien, mais sur les autres choses qui étaient un peu plus confidentielles et tout, les caractères un peu plus personnels, peut-être moins fonctionnels et tout, je les ai mis dans ce label, par rapport à ce reproche qu'on m'avait fait un éditeur typographique, qui m'a dit, le problème parfois avec tes caractères, c'est que ça marche bien avec une certaine composition, mais ça marche pas avec tout, quoi. Je crois que c'est un mot de René Char qui dit « Ce qu'on te reproche, cultive-le, c'est toi ». Effectivement, certains de ces caractères-là, ça marche bien avec certains mots et pas avec d'autres. Je suis toujours resté sur l'idée de liberté, donc à deux niveaux. Déjà dans la forme, c'est-à-dire que c'est des formes assez radicales et qui vont pas forcément plaire à tout le monde et conviennent pas à tout le monde, mais ça, c'est pas grave, c'est ma liberté en fait en tant que créateur. Et donner aussi un maximum de liberté en fait à la personne qui achète la typo. Et même des libertés qu'on n'a pas avec une typo libre. C'est-à-dire, en gros, on achète un exemplaire de la typo, l'exemplaire est numéroté, et en fait, cet exemplaire-là, on peut l'améliorer et le revendre. Ce qui n'est pas possible avec les typographies libres, Velvetine, par exemple, ou de Google, etc. C'est-à-dire qu'en fait, si on utilise la typo et qu'on veut la revendre, on n'a pas le droit. Ça rejoint un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire l'idée de faire le lien entre la forme, l'intention, et puis le contexte, quoi. C'est plutôt là où j'en suis arrivé aujourd'hui, c'est-à-dire de conserver cette part de liberté, parce que je pense que ça, c'est inhérent à toute forme d'art.
Pour chaque projet, nos spécialistes du dessin de caractère ont mis certaines techniques en place. C'est l'occasion de partager des conseils sur la création de familles de caractères et l'usage de la typographie.
Je pense qu'il faut se dire que la première ne sera pas forcément la meilleure. En fait, la création de caractères, je pense que c'est un espace d'expression qui est vraiment super, super jouissif et à la fois très libre et en même temps très contraint par beaucoup d'habitudes de lecture et de voilà. Donc dès qu'on est soit dans l'espace de la typographie de titrage, soit de la typographie de texte, on est un peu dans deux paradigmes très différents. Et je pense que ça demande beaucoup de persévérance. C'est vraiment en faisant qu'on aiguise et son œil et ses capacités de dessin. Et donc il faut en dessiner une, puis une deuxième, puis une troisième, sans se poser trop de questions. Et c'est vraiment à force de dessiner. Et aussi en échangeant. Alors, je dis pas qu'il faut faire une formation spécifique à ça, mais en tout cas, je pense qu'il faut avoir des interlocuteurs qui nous aident aussi à trouver les bonnes pistes, à développer les bonnes pistes de dessin, et que c'est vraiment en persévérant, en faisant encore et encore, en itérant, à mon avis, qu'on finit par arriver à des choses satisfaisantes.
Ce qui me paraît important déjà pour bien utiliser la typographie, c'est de beaucoup observer. J'ai appris la typographie en lisant des livres, notamment les livres de Yves-Pierre Rousseau, parce que sur moi, moi, mon père n'était pas contre le fait d'acheter des livres, même s'il a parlé d'autres choses que des sujets habituels. Au moins ça, les livres, j'y avais accès. Et puis après, faut éventuellement se laisser porter par certains sujets. C'est-à-dire qu'en fait, si on a envie de parler de quelque chose, si on a envie de mettre en avant un sujet, utiliser justement la typographie pour parler de ça. Parce que finalement, la typographie, c'est une voix. Hein. Donc si on a quelque chose à dire, qu'on a envie de parler de quelque chose, qu'on a envie, si on a un ressenti même par rapport à quelque chose, ben la typographie c'est un bon moyen de s'exprimer quoi. C'est un peu hurler sans bruit pour reprendre je crois le mot de Marguerite Duras, mais c'est quand même une façon de s'exprimer. Notamment de commencer peut-être plutôt par la typographie de titrage qui est quand même on est plus abordable. En fait on peut faire une typographie de titrage assez convaincante, alors qui va pas forcément marcher partout, mais qui marchera au moins pour certains contextes. Alors que par contre, faire une belle typographie de texte qui va vraiment être efficace, là, c'est une autre paire de manches. C'est vraiment pas la même chose. En s'appuyant beaucoup sur l'observation et puis sur les choses qu'on a envie de dire ou les choses qu'on ressent et qu'on a envie d'exprimer, voilà, la typographie, c'est un bon moyen, quoi.
Moi, mes profs m'ont appris qu'il fallait jamais déformer les typos, mais maintenant je le fais tout le temps, du coup je sais pas si... Non, mais je dirais que finalement, c'est bien de connaître les règles pour pouvoir les enfreindre en connaissance de cause. Mais donc pour ça, je vais pas, enfin, genre, lisez le détail en typographie ou des trucs comme ça, des bouquins dans ce genre-là, c'est toujours très intéressant. Ou The Elements of Typographic Style de Bringhurst, ce genre de bible un peu de la typo. Puis après, vous pourrez être en mesure de ne pas du tout écouter leurs recommandations, mais de savoir pourquoi vous le faites. Je pense que c'est plutôt ça mon conseil, ouais, c'est de se renseigner sur comment faire les choses dans les règles de l'art, et puis après de se laisser la liberté de ne pas suivre ces règles.
Chapitre 3. Le dessin de la lettre. Ce chapitre aborde différents points de vue autour du dessin des caractères, les contextes politiques ou culturels qui mènent aux formes des lettres que nous utilisons tous les jours. Franck pointe l'intention des personnes qui produisent ou utilisent les caractères, soulignant les possibles valeurs humanistes de la typographie.
Une typographie, c'est déjà un point de vue sur le langage et sur le signe. En fait, on peut dessiner un A de mille manières. Et la façon dont on s'y prend, ça veut dire déjà quelque chose sur l'époque. À l'époque où on fait l'Helvetica, on est dans l'après-guerre, dans l'Europe de l'Ouest d'après-guerre, plutôt en Suisse. On essaye de faire quelque chose qui soit le moins connoté possible, le plus objectif possible, avec une idée quand même de rationalité et de progrès. Mais on arrive quand même après d'autres tentatives de ce genre-là, comme le Futura, par exemple, qui est arrivé dans l'entre-deux-guerres, et qui malheureusement a servi aussi aux nazis, par exemple, parce que c'était une forme de lettre très efficace. Ça n'a pas empêché pourtant d'être utilisé dans des... pour des noirs dessins. Donc le problème en fait, c'est que il faut jamais perdre de vue qu'il y a une intention et puis après il y a une forme. Et tout ça, ça se vit dans un contexte. Entre la personne qui dessine la lettre, la personne qui va la produire et puis la personne qui va utiliser cet outil graphique pour communiquer, tout ça, faut que ça marche ensemble. On peut très bien utiliser une forme graphique très efficace, mais pour une idéologie pas du tout humaniste. On le sait depuis la nouvelle typographie. C'est un peu le grand regret de Jan Tischold, c'est que en fait il a théorisé une nouvelle typographie très efficace avec une ligne très claire, etc. Très radicale, et en fait il s'est rendu compte que cette typographie elle a servi aussi pour les nazis, quoi. Et c'est pour ça qu'après la guerre, il est revenu à des formes plus traditionnelles, notamment un Garamond qu'il a redessiné, qui s'appelle le Savon. Il essayait vraisemblablement de se rapprocher de cet idéal humaniste. C'est-à-dire quelque chose de juste efficace, c'était pas un garant suffisant de bon design, quoi.
Les habitudes de lecture ont été forgées pendant des siècles. Ces habitudes influencent le dessin des caractères et donc la forme des lettres.
On a forgé aussi des habitudes de lecture. C'était Stanley Morrison, donc un critique, historien, auteur britannique très important du XXe siècle, qui disait « La typographie évolue au rythme du lecteur le plus conservateur ». Dès qu'on est dans de la typographie, ce qu'on va appeler de la typographie de labeur, donc la typographie destinée à du texte courant, il y a énormément d'habitudes de lecture qui se sont forgées au fil des siècles, qui font que finalement la marge de manœuvre peut paraître très réduite, Alors que lorsqu'on est dans la typographie de titrage, par exemple, on peut se permettre des choses beaucoup plus fantaisistes, puisqu'on ne cherche pas forcément à lire, mais plutôt à reconnaître les formes. Et donc, je pense que toute cette histoire de la typographie et évidemment l'histoire de l'écriture ont vraiment solidement forgé notre manière aujourd'hui d'appréhender la lecture et donc les formes des caractères.
Plus loin que ses habitudes, la langue est une matière vivante. Comment la typographie peut-elle rendre compte de l'évolution des usages dans le langage ? C'est ce questionnement qui sert de point de départ au travail d'Eugénie et de la collective Bye Bye Binary.
Il y a eu aussi toute une partie au début de ma recherche à la NRT où j'ai pas trop dessiné de lettres, en fait, et j'ai plutôt fouillé un peu dans des études en sociolinguistique sur le sujet. Et puis, ce qu'on voit dans ces études-là, c'est que, en fait, l'utilisation d'écriture inclusive, alors que ce soit par utilisation, voilà, de signes de ponctuation dont on a parlé, mais aussi simplement le doublé, quoi, de simplement mentionner les hommes et les femmes et de pas utiliser le masculin à valeur générique. On voit que d'utiliser, voilà, des formes inclusives, ça a des effets vraiment significatifs sur la représentation des gens. C'est-à-dire que, en fait, quand on présente un même énoncé à un groupe de personnes, que ce soit aux hommes ou aux femmes, d'ailleurs, quand l'énoncé est inclusif, on voit que dans la représentation mentale des personnes, et ben, va y avoir des groupes mixtes dans leur tête, quoi. Alors que si on utilise un masculin générique, en fait, le masculin générique est compris comme spécifique, c'est-à-dire qu'on va se représenter que des hommes. Même si c'est pas la réalité. On a des données scientifiques tangibles qui existent et qui démontrent que c'est non seulement c'est un procédé qui a des intentions vertueuses, mais qui en plus fonctionne, en fait.
La façon d'écrire a une influence sur nos représentations mentales. La collective Bye Bye Binary présente des polices de caractère inclusives, non binaires ou post-binaires, travaillant la forme du signe pour adresser à la fois des enjeux de représentation, mais également des problématiques techniques, le point bas, le tiret ou le point médian.
Elle s'est créée en 2018 dans le cadre d'un workshop co-organisé par l'ERG et la Cambre, et qui a eu lieu d'ailleurs à la bibliothèque Rosa à Bruxelles, qui est une bibliothèque féministe. Et en fait, pendant ce workshop, il y a eu pas mal d'expérimentations sur l'écriture inclusive et comment utiliser le graphisme, et puis plus spécifiquement le dessin de caractère et la typographie, pour proposer de nouvelles choses qui vont au-delà donc de ce à quoi on est habitué, c'est-à-dire l'utilisation du point médian ou d'autres signes de ponctuation qui à la base sont pas faits pour cet usage et donc posent un certain nombre de problèmes. Voilà, l'idée de dessiner donc des glyphes inclusifs fait exclusivement pour l'écriture inclusive et donc qui repose sur par exemple des ligatures, ça nous semblait intéressant, d'autant que la ligature aussi permet d'avoir une liaison entre le masculin et le féminin et donc de débinariser un peu tout ça, là où utiliser un signe de ponctuation séparateur va au contraire renforcer cette vision binaire du langage.
Un problème parfois relevé avec l'écriture inclusive est la difficulté pour les personnes atteintes de troubles 10 à lire les mots ainsi écrits. De quelle façon ces nouvelles polices de caractère peuvent-elles répondre à ces problématiques ?
On oppose d'un côté l'inclusion des personnes dyslexiques et l'inclusion des femmes et des minorités de genre. Le problème dans cet argument, c'est qu'on sait qu'il y a beaucoup de personnes qui sont concernées par les deux problématiques. Bien qu'elles aient un trouble de la lecture, ont quand même vocation de voir leur identité de genre représentée dans le langage de manière équitable. En ce qui concerne factuellement comment on rend la typographie plus inclusive, pour ça on a besoin déjà de données scientifiques sur la lisibilité de ces glyphes. Ces données scientifiques, on en manque cruellement pour l'instant, mais c'est quelque chose qu'on a commencé à résoudre. Il y a une première étude, alors qui a été faite avec vraiment très peu de moyens, si ce n'est aucun, par Sophie Vella, qui donc est membre de la collective Bye Bye Binary. Et ce qu'on remarque, du coup, dans cette étude, c'est que les personnes qui ont un trouble de la lecture butent aux mêmes endroits que les personnes qui n'en ont pas. C'est juste qu'elles éprouvent une difficulté accrue à lire, mais voilà, on voit que ça se place, enfin, que les difficultés arrivent sur les mêmes glyphes, en gros. Ce qu'on peut en conclure, c'est que si on améliore la lisibilité des glyphes, ça améliorera la lisibilité pour tout le monde, quoi. Qu'il n'y a pas de, vraiment de difficultés spécifiques aux personnes 10, mais que voilà, c'est plutôt des difficultés qui sont accrues, mais aux mêmes endroits. Montre aussi, et qui est plutôt encourageant, c'est que bien que des difficultés de lecture vont arriver à l'endroit de ces glyphes et donc voilà, créer parfois des pauses dans la lecture, un retard, un stop, on va dire, ça va pas créer d'incompréhension sémantique. C'est-à-dire que les personnes arrivent toujours à comprendre le sens des phrases qui leur ont été proposées. Ce que ne mesure pas l'étude aussi, pour l'instant, c'est le phénomène d'habituation. Et on sait très bien que, en termes de lisibilité, c'est l'habitude qui est le maître mot. On peut s'attendre à ce que, à force de rencontrer des glyphes inclusifs, les personnes arrivent de mieux en mieux à les lire et les remarquent de moins en moins. Il y a une étude sur le cas du point médian, qui du coup est une autre forme d'écriture inclusive, que au bout de, je sais plus si c'est une ou deux, je crois que c'est au bout de deux occurrences que déjà en fait qu'au début ça crée un retard dans la lecture, c'est-à-dire que ça crée une diminution de la vitesse de lecture. Dès la deuxième occurrence, la vitesse de lecture redevient normale.
Dans les années 80, deux mouvements cohabitent dans les écoles de création graphique. Étienne raconte la rencontre de ces mondes entre l'école de la typographie fonctionnelle et celle d'un graphisme plus politisé.
Quand je suis rentré aux Arts Déco, je faisais du dessin. Je savais même pas ce que le mot typographe voulait dire, hein, donc c'est clair. On est en 84, hein, 85. Alors, tu vois, le métier n'est pas vraiment très connu. Moi, j'ai eu la chance d'avoir deux types de professeurs à l'ENSA, aux Arts Déco. J'avais les anciennes Grapus, donc c'est ce qu'on appelle graphisme d'urgence, très politisé. On n'hésite pas à déchirer du papier, à coller, à faire à la main, à gribouiller, voilà, et en même temps utiliser des polices de caractère déjà pré-imprimé ou numérique, de faire tout ce grand mélange qui était vraiment génial. C'est vraiment du graphisme d'urgence, certes, tout d'un coup. Alors, graphisme d'urgence avec plein de guillemets, complètement maîtrisé, en fait. Mais où on a l'impression qu'il y a une sorte de d'urgence dans ces images qui sont très très fortes, hein. C'est vraiment des coups de poing dans la tête, quoi, qui est aussi inspiré des affiches de manifestations, voire de mai 68, toi, des fanzines de mai 68, bah c'est comment c'est passionnant ces fanzines ou ces affiches, c'est avec Théo Beaux-Arts de Paris, il y a deux trois trucs d'impression, de la sérigraphie, il y a des presses et compagnie, comment très rapidement on fait des tracts dans la nuit, voilà. Donc ça va entraîner un style de graphisme qui est magnifique, enfin qui est très fort, voilà. Et puis en même temps, j'avais les profs comme Rudy Meyer ou Jean Widmer ou Peter Keller. Donc c'est des profs, comme leur nom l'indique, qui viennent de Suisse, voilà, et qui avaient cette rigueur, voilà, de l'école d'Ulm et de lointainement inspiré du Bauhaus, mais en tout cas une approche de la typographie presque fonctionnelle, fonctionnaliste, c'est-à-dire que on est vraiment sur la lecture, sur une pureté, sur une épure vraiment du dessin, et d'être le plus simple à lire, radical en tout cas, voilà, dans sa simplicité. Voilà. Et en même temps, on avait notre côté, j'aimais bien, c'est François Mie, François Vermeil, voilà, on a des gens qui t'ouvraient aussi, dire ouais, mais une police de caractère, si j'ai envie de la froisser, de la broyer, de la découper en trois, enfin voilà, de mélanger des polices dans le même texte, je prends trois types de polices de caractère différentes, ben on y va. S'il y a un sens là-dedans, d'accord. Et à côté, de l'autre côté, ben tu travaillais sur, je sais pas quoi, des maquettes de magazines, des choses comme ça, ou de journaux, ben il faut que ça soit la lecture qui soit mise, c'est-à-dire que la police de caractère est vraiment au service du lecteur et doit être presque le plus neutre possible, tu vois, pour une expo, les cartels ou les choses comme ça, voilà.
Dans l'histoire de la création, de nombreuses femmes ont été effacées au profit de figures masculines. Avec le projet de recherche Women in Type, Alice retrace les parcours de ces femmes dans l'industrie typographique.
Le projet de recherche Women in Type, donc c'est un projet que j'ai mené avec l'université de Reading et l'enseignante chercheuse créatrice de caractère Fiona Ross, qui travaille depuis assez longtemps à l'université de Reading, et une autre collègue qui s'appelle Elena Leka, qui est également graphiste et chercheuse. L'idée de Women in Type, c'était de documenter et d'analyser et aussi de rendre hommage aux femmes qui ont travaillé dans l'industrie typographique au XXe siècle, puisque la typographie, quand on se penche un peu sur son histoire, c'est un métier très historiquement très masculin, C'est-à-dire que les premières figures de femmes créatrices de caractère, elles émergent vraiment à partir des années 80, 90, avec des femmes comme Susanna Lichko, Suzanne Kerr, Carole Tombly, par exemple. Mais on a quelques exemples, j'ai envie de dire, qui font office d'exception de femmes créatrices de caractère avant ça. Mais sinon, ça reste très masculin. Et en fait, il s'avère que quand on se penche un peu sur une histoire plutôt industrielle de la création typographique, les femmes étaient bel et bien présentes, mais elles étaient plutôt cantonnées à des rôles d'exécutantes ou des rôles plutôt liés à ce qu'on va imaginer comme étant de la production dans des studios de dessin typographique, c'est-à-dire qu'en gros, il y avait un directeur artistique et puis elles étaient là pour produire, en fait, produire les dessins. Et en fait, en se penchant sur ce travail, on voit que c'était un travail qui nécessitait quand même un certain nombre de compétences, qui nécessitait une forme d'expérience, qui a des femmes qui ont dédié une partie de leur vie à travailler dans cette industrie. Et donc, il nous semblait important pour tout un tas de raisons de se pencher sur cette contribution et de montrer que les femmes étaient bel et bien présentes dans l'univers de la typographie, mais elles étaient cantonnées à l'espace dans lequel on voulait bien qu'elles évoluent.
Ce projet nous invite à questionner notre rapport à l'histoire et la place des petites mains invisibles derrière les polices de caractère que nous utilisons chaque jour.
Il y a un certain nombre d'historiennes, de critiques du design qui ont un peu ouvert la voie sur le fait que, d'une part, c'était important un peu de réécrire l'histoire de manière moins héroïque, j'ai envie de dire. C'est-à-dire qu'on a vraiment, et pas uniquement à l'échelle du type design, mais j'ai envie de dire de tous les domaines du design, on a tendance à valoriser des formes de figures héroïques, c'est-à-dire qu'une création égale un designer, et on ne crédite pas du tout ce qui va être le travail d'équipe derrière, ce qui va être ce qu'on va appeler les petites mains. Déjà, il y avait cette idée sur laquelle ont pu travailler des chercheuses comme Cheryl Buckley, par exemple, ou Cynthia Coburn. L'idée de vraiment déconstruire notre idée de ce qu'est l'histoire du design graphique et typographique pour le revoir sous un angle qui soit à la fois plus collaboratif et aussi sous l'angle de la production de manière à réintégrer des figures qui ont été jusqu'à présent complètement ignorées. Ce qui a nourri notre travail, c'est aussi tous les débats qu'il a pu y avoir ces dernières années autour de la place des femmes dans l'industrie typographique, leur présence dans les conférences, dans les workshops, la question des rôles modèles aussi, c'est-à-dire quelle figure est-ce qu'on propose à des étudiants, des étudiantes, des formats de carrière vers lesquels ils peuvent se projeter. Tout ça, ça a aussi contribué au fait qu'on ait envie de mener ce projet de recherche. Nous-mêmes, on est à la fois chercheuses et créatrices de caractère. Ce projet de recherche, il se penche sur l'histoire de ces grandes sociétés qui étaient linotype et monotype tout au long du XXe siècle pour aller chercher des femmes qui ont travaillé dans ces sociétés, parfois pendant très longtemps, qui ont eu des contributions qui étaient quand même significatives et qui étaient passées sous un nom de... Voilà, c'était le design studio, donc on n'avait pas vraiment connaissance de leur travail. Ça nous semblait important de rectifier ça.
Évolution de la langue, usage dévoyé des polices de caractère, invisibilisation des contributrices à la conception. Un autre enjeu est celui de représenter les différents systèmes d'écriture existants de manière numérique.
On développe à la NRT un projet de recherche depuis plusieurs années maintenant, un programme qui s'appelle Missing Script, qu'on fait en partenariat avec l'université de Berkeley aux États-Unis et plus particulièrement le Script Encoding Initiative et l'université de Mayence en Allemagne. L'idée, c'est de proposer une forme typographique pour des systèmes d'écriture très souvent minoritaires pour un certain nombre qui ne sont plus en usage ou alors vraiment en usage par encore quelques locuteurs, quelques scripteurs. Et ce sont des écritures qui n'ont pas ou peu de forme typographique. Pour beaucoup, en fait, il n'y a pas encore de forme numérique, c'est-à-dire que le seul moyen de transcription, c'est en passant par l'écriture. Et qui, pour beaucoup d'entre elles aussi, n'ont pas encore été encodées dans ce qu'on appelle l'Unicode, qui est le standard aujourd'hui pour toutes les écritures couramment utilisés. Et donc, il y a cette commission Unicode régulièrement intègre de nouveaux systèmes d'écriture dans son standard. Et donc, pour pouvoir intégrer ce standard et pour pouvoir taper sur un ordinateur ou sur un clavier de téléphone avec cette écriture, et bien, il faut qu'elle ait une première forme typographique. Et donc, on a des étudiants-chercheurs à l'ANRT qui travaillent au fait de produire ces premières formes numériques, ce qui représente un certain nombre de défis, et notamment la question de l'origine et de la source, c'est-à-dire sur quoi est-ce qu'on se base pour proposer une forme numérique typographique qui soit à la fois fonctionnelle et à la fois fidèle et juste par rapport aux sources qui vont nous être données.
Un sujet traité également par Google avec sa police de caractère Noto. Existe-t-il un risque de voir une entreprise privée s'approprier la représentation typographique de certains systèmes d'écriture ?
Ils ont développé depuis plusieurs années maintenant un caractère typographique qui s'appelle le Noto. Noto pour no tofu, parce que le tofu, c'est le petit signe, le petit bloc avec la petite croix qui implique qu'un caractère n'existe pas dans une fonte. Et donc l'idée, c'est de supprimer tous ces petits caractères, donc en ayant pour chaque bloc, pour chaque case, qu'on ait une lettre dessinée. Et donc, Google s'attaque à ce sujet-là en développant ce Noto, pour ce caractère Noto, pour un grand nombre de scripts. On a toujours un peu tendance à s'inquiéter de ce que fait Google, puisque évidemment, on peut toujours s'interroger sur leurs intentions. Il s'avère que là, le fait de proposer un caractère typographique qui, dans une forme unifiée, inclut le plus grand nombre possible de scripts, dont des scripts qui ne sont pas encodés depuis très longtemps ou qui ne sont pas disponibles dans beaucoup de types de formes numériques, c'est quand même un objectif relativement utile et important. Il me semble pas qu'il y ait de risque qu'un grand acteur comme Google puisse s'octroyer l'exclusivité de la circulation de ces écritures, puisqu'il peut pas y avoir de monopole sur une écriture, heureusement. Comme il existe assez peu de formes typographiques pour ces écritures, le risque, c'est d'en proposer une première forme qui se généralise, en fait, et qui vienne uniformiser le style de ces écritures, parce que le Noto, il existe sous la forme d'une linéale de lettres bâton, donc relativement simplifiée. Il faut se dire que c'est une forme possible, mais c'est important aussi que les créateurs, les chercheurs aillent puiser à la source pour proposer une diversité d'approches, de la même manière que pour les caractères latins, on a plein de styles différents.
Chapitre 4, typo futuriste. Si la typographie évolue au rythme du lecteur le plus conservateur, quel pourrait être l'avenir pour les polices de caractères, leur conception et leurs usages ? Nous l'avons vu, la conception numérique de caractères repose encore sur une tradition héritée du plomb, dans une industrie utilisant les termes du XVe siècle. Dans ce dernier chapitre, nous plongeons dans les possibles évolutions techniques pour la typographie numérique.
Il y a plusieurs interrogations dans notre métier. La première, c'est par rapport à ce format des fontes variables qui existe depuis quelques années maintenant et qui peine un peu à décoller du point de vue des utilisateurs, mais qui nous prend pas mal de place du point de vue du créateur. Donc la question est de savoir comment cette question de la variabilité et du format dynamique des fontes et de leur usage sur Internet. On va voir comment est-ce que les utilisateurs s'en saisissent et ça va en partie façonner aussi notre manière d'approcher notre métier. Il y a évidemment la question de l'intelligence artificielle. Pour le moment, on en est relativement préservé, sous-entendrait que l'intelligence artificielle va nous poser des problèmes, je ne sais pas vraiment. Mais en tout cas, la typographie, c'est un métier tellement de niche et tellement pointu que pour le moment, les outils d'intelligence artificielle ne couvrent pas encore vraiment nos compétences et notre travail. On commence là un projet de recherche à l'école de Lausanne, à l'ECAL où j'enseigne, un projet qui s'appelle Beyond Bézier, qui va justement venir questionner le futur de la typographie, notamment l'impact de l'intelligence artificielle sur la création typographique. Et moi, en particulier, je vais m'intéresser à la question du revival, qui est un sujet que j'aborde avec mes étudiants. Donc, comment est-ce qu'on aborde des sources historiques et comment est-ce que l'intelligence artificielle peut intervenir dans l'approche de ces sources-là? Et on s'interroge aussi sur notre rapport à la courbe de Bézier, puisque ça fait maintenant 40 ans qu'on utilise, bientôt 40 ans, qu'on dessine les caractères par le contour. qu'en utilisant de la courbe de Bézier. Donc, ça conditionne aussi notre manière de dessiner, notre manière d'appréhender la lettre. Et donc, on s'interroge sur les autres angles d'appréhension de cette forme typographique qui ne passerait pas par le contour, mais plutôt par un rapport à la matière qui soit différent.
Pour Franck, l'usage des polices variables peut être une réponse pour les marques. Il partage l'exemple de Pfizer, qui a opté pour le Noto en 2021, afin d'expliquer comment ces technologies pourraient permettre la certification des médicaments.
Là, on parle d'un secteur, indépendamment de ce qu'on pense de Pfizer, mais qui agit quand même sur quelque chose qui est quand même très important, qui est quand même la santé, quoi. Voilà. Et il y a quelque chose qui est quand même très problématique dans la santé, c'est la problématique des médicaments et de la contrefaçon des médicaments. Et il y a un certain nombre de pays où il y a de la contrefaçon de médicaments. Si j'avais Maurice Lévy en face de moi, voilà ce que je lui dirais au niveau de la typographie. Écoutez, voilà, vous avez un acteur majeur qui peut changer la vie de plein de gens. La contrefaçon de médicaments, c'est un mal endémique, quoi. Dans les pays en voie de développement, singulièrement l'Afrique subsaharienne, c'est dramatique. Et donc là, si on utilise la typographie, et donc là, on va rejoindre la question technologique, notamment la technologie des fonds variables. Et ben en fait, avec la technologie des fonds variables, on peut vendre aux clients un espace de design très très vaste, avec à un moment donné des valeurs en fait très très particulières. Et ces valeurs très particulières, c'est les valeurs qui vont vérifier l'authenticité du produit. Et si on arrive à faire ça sur le packaging, on va faire des trucs mais absolument incroyables, quoi. Et là, non seulement on va faire du beau design, du design bien financé, mais surtout on va vraiment rendre service à énormément de gens, quoi. Voilà. Et donc moi c'est ça que je pousserais comme truc. Et c'est encore une fois, c'est pas parce que je suis admiratif spécialement de ça, c'est que je me dis mais voilà, ça c'est vraiment quelque chose qui va avoir un impact sur énormément de personnes.
L'intelligence artificielle est au centre de plusieurs débats dans les métiers créatifs. La typographie n'y échappe pas. Étienne partage comment l'IA pourrait aider les personnes souffrant de troubles 10.
Bon, là, je parlais des intelligences artificielles. Moi, je m'en sers vraiment pour des polices de caractère, on va dire, de titrage, pour m'amuser. C'est-à-dire qu'elles deviennent des images, d'accord ? Mais avec toujours cette base, cette structure où l'être humain reconnaît un A, un B. Bon, j'adore être à la limite de la lisibilité. On peut en voir là à côté, voilà. Et puis, des choses que tu ne pourrais pas faire en vrai. C'est-à-dire que je me suis amusé à faire des polices là, à côté de moi. Là, il y en avait en forme de poulpe, mais il y en a où c'est vraiment avec de la crème chantilly, ou si une police de caractère est faite avec de l'eau qui coule. Tu peux le faire en vrai, mais ça te prend un temps infini. Mais je pense qu'il y a des choses à faire, toi, avec les intelligences artificielles. Là, je vais commencer un projet, c'est hypothétique, mais justement, je suis très sensibilisé au problème de dyslexie. Et la dyslexie, c'est énorme, hein, c'est 10% des enfants, et en plus, les pauvres, on les considère comme les mauvais de la classe, alors que non, c'est pas, ils sont pas bêtes, c'est que juste, ils lisent plus lentement que nous, donc c'est un problème. Tous les dyslexiques sont différents, c'est-à-dire qu'en gros, les symptômes sont les mêmes, mais en fait, leur approche de la manière dont ils voient les choses, surtout des polices de caractère, elles sont toujours différentes, toi. Donc, il y a des polices de caractère, des fois, qui marchent. Si tu le fais en négatif, il y en a, ça marche mieux. Il y a des fois des polices en miroir. Des fois, c'est le Comic Sans, qui est la grosse blague des typographes parce que elle est vraiment très moche. Mais en fait, le Comic Sans, souvent, les dyslexiques le préfèrent parce que justement, c'est une police qui n'est pas du tout bien équilibrée ni régulière. Donc, leur œil s'accroche mieux. C'est-à-dire que, tu vois, par exemple, tu prends le pire, c'est le Futura ou les choses comme ça, tu vois, entre le P et le Q, c'est juste symétrique. Le B et le D sont totalement symétriques. Ben, c'est horrible pour un dyslexique parce qu'en gros, c'est comme s'il voit à travers un miroir. Tu vois, donc c'est complètement, pour lui, un B et un D, c'est la même chose. Donc quand tu lui donnes du Futura, ben, lui, il dit, mais non, mais moi, j'arrive pas. Alors que quand tu prends la police Comic Sans, où tu vois que c'est fait un peu n'importe comment, c'est pas grave, ben, eux, tout d'un coup, le B et le D sont vraiment différents, donc ils arrivent à bien les discerner. Voilà. Et donc je pense que par exemple de faire plein d'essais avec des intelligences artificielles où tu te prends un dyslexique et en gros petit à petit on va lui proposer des formes un peu en aléatoire et petit à petit il va dire tiens je lis. C'est comme quand vous êtes chez l'ophtalmo ou de loin, vous voyez, on vous met des verres et on vous dit est-ce que tu vois la lettre A, B, C. Ben là on pourrait le faire presque dynamiquement, c'est-à-dire qu'une intelligence artificielle qui a été entraînée sur plein de polices de caractère va proposer des textes mais très très vite et en changeant des formes dynamiquement, et petit à petit le dyslexique va dire ben en fait cette police de caractère qui va que être à moi, qui va être parfaitement adapté à mon handicap, ben je vais pouvoir la générer assez vite et elle sera à moi. Voilà, ça c'est un truc qui, je pense, qui est intéressant, c'est que tout d'un coup on va faire des sur-mesures.
En conclusion, au-delà des révolutions techniques, de l'évolution des usages et de la langue, la question est entre les mains des humains. Soit, à quel dessein vont servir ces technologies ?
Et au niveau de l'intelligence artificielle, bah pareil, il va y avoir en fait tout un travail au niveau des connotations typographiques, de la classification typographique, etc. Et éventuellement de la génération de formes, qui va être possible avec avec ces technologies, alors qui va poser tout un tas de questions éthiques vraiment majeures avec comment on rémunère les créateurs, comment on s'approprie leur travail ou pas, etc. Mais qui est quand même de dire aujourd'hui, de toute façon, le concurrent le plus important de Monotype, c'est Google. Et donc, en gros, si on veut éviter à nouveau le fiasco d'un Pfizer, il faut qu'on soit en mesure de dire, OK, j'ai un client massif en face de moi qui doit à la fois traiter en Occident, Moyen-Orient, en Inde, il faut que je lui rende un caractère pendant une semaine, un truc mondial. Et ben comment je fais ? Il faut que j'entraîne des machines, il faut que je sois en mesure de lui donner rapidement un aperçu, de se dire, ben voilà, vous voyez, c'est cette typo assez cool qu'on a, qui est dans notre catalogue, qui a un caractère historique super. On va pouvoir vous le transformer en Devanagari pour les Indiens. On peut vous en faire une version en arabe. On peut vous en faire une version en chinois très rapidement. Et avec nos modèles d'apprentissage, en plus, si vous voulez lui imprimer une valeur d'affectivité, d'émotion, etc., on va pouvoir faire ça. Mais surtout rapidement, quoi. C'est de gagner un temps. Parce que c'est pas juste un problème de budget, c'est un problème de temps. C'est de réussir, en fait, à pousser cette proposition de valeur typographique rapidement, quoi. Le délai des agences, le délai des projets, il est très très court, quoi. Si ce délai-là n'est pas respecté, bah ils auront utilisé une typo libre et gratuite qui est déjà là. C'est ça le gros sujet. Donc ils n'ont pas le choix, en fait, que d'aller en fait vers des possibilités où ils pourront proposer des choses beaucoup plus riches et beaucoup plus rapides. La question, c'est de savoir, est-ce que ça va être au service justement de ces meilleures boîtes de médicaments, de cette infalsifiabilité. Faut pas qu'on retombe dans le piège, en fait, de la nouvelle typographie. C'est-à-dire, en gros, on a fait des formes super efficaces, mais on l'a mis au service du futurofascisme, des nazis, etc. En gros, la question de la forme va être résolue quand même assez rapidement. La question, c'est de savoir comment on va articuler cette forme par rapport au dessin. Et donc, du coup, on va peut-être s'interroger sur le dessin qu'on veut servir. Donc, on en revient à cette question humaniste. Quelle humanité on veut défendre, qu'on veut incarner avec,